Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Regardez une femme enceinte. Vous croyez qu'elle traverse la rue, ou qu'elle travaille, ou même qu'elle vous parle. C'est faux. Elle pense à son bébé. C'est d'Anna Gavalda. On va parler de femmes enceintes aujourd'hui, entre autres, et de grossesse, avec une de mes invitées.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, je suis tellement contente. Pas contente parce que c'est la dernière, ça me fait un petit peu de la peine, mais il y en aura d'autres des émissions, mais ce sont des reprises que vous aurez pendant tout l'été de l'émission à livre découvert. Mais en tant qu'émission originale, c'est la dernière de la saison 2014-2015. Et si je dis que je suis très heureuse, c'est parce que mes trois invités sont en studio. Je reçois le chouchou de l'émission. Oh mon Dieu, là les autres ils vont pas le prendre, je devrais pas dire ça. Je devrais vraiment pas. Mon chouchou à moi, on va dire ça comme ça. Celui qui intervient maintenant depuis quelques mois, une fois par mois, et qui est là avec nous régulièrement, mais par téléphone, Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Et merci d'être venu jusqu'à nous. Je reçois aussi quelqu'un, en fait ce sont des retrouvailles que je n'avais pas vues depuis un peu plus de 20 ans maintenant, à qui l'on doit plusieurs livres que vous avez adorés, je pense à Borderline par exemple, et là qui vient de signer La vie sur Mars, qui vient d'arriver au SQLA, c'est Marie-Cécile Abrèche. Bonjour Marie-Cécile. Ça va bien?
Oui, vous?
Très bien, merci beaucoup. Et en face de moi là-bas, oh il est quasiment un habitué des lieux, c'est un bénévole, c'est sûrement une des plus belle voix que nous ayons ici. En tout cas, moi, c'est une voix qui m'enchante et je suis ravie qu'il ait accepté encore une fois mon invitation. C'est Jacques Tremblay. Bonjour Jacques.
Bonjour Clotilde, vous en mettez toujours trop.
Eh bien tant pis, ça fait partie de ma marque de commerce, puis si ça vous dérange, eh bien c'est tant pis, voilà. Et puis sinon à l'émission, il y aura aussi, on finira par quelques titres en rafale, et puis il y aura quelques nouvelles, mais en gros je vais surtout passer beaucoup de temps avec mes invités, et j'en suis ravie.
Les livres audio, ils en mangent.
Alors Gérald, je me tourne vers vous. C'est vrai que c'est quand même pas toujours évident de vous déplacer. Vous êtes complètement ou presque non-voyant. Ça veut dire à chaque fois transport adapté, tout ça. Et vous avez accepté spontanément de venir. C'est vraiment très agréable et très gentil de votre part.
Ben, je dirais d'abord qu'avec le transport adapté, il n'y a pas de problème.
Hein. Non.
De porte à porte, c'est très sécuritaire. Alors Clotilde, pour la dernière de l'année, je vais vous parler d'un curieux, très curieux petit roman. Pas petit, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il compte 200 pages.
Ah, bon.
Et comme je me suis tapé récemment des polars de 1000 pages ou presque, alors c'était comme une récréation.
Oui.
Alors c'est un curieux petit livre d'un auteur américain que je connaissais pas, il s'appelle Samuel Phillips Savage, en fait on dit Sam Savage. Mm-hmm. Un monsieur qui a un drôle de parcours. Il a obtenu un doctorat à la Yale University, c'est quand même quelque chose. Il a enseigné,
oui.
Il n'a pas aimé ça d'ailleurs. Et il a fait toutes sortes de métiers, dont mécano de vélo.
Alors,
maintenant, il vit dans le Wisconsin avec sa compagne. Alors, il a écrit quelques livres, dont ce très curieux Firmin.
Qui était son premier, hein, je pense. Oui, c'était le premier roman, en tout cas.
C'est, 2006, oui, oui. En tout cas, paru en 2006.
C'est ça.
Et le titre français, je l'adore, Firmin, autobiographie d'un grignoteur de livres. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, Firmin, c'est qui? Ben, d'abord, c'est un rongeur, c'est un rat.
Oui.
Alors, il est issu d'une portée de ratons. La pauvre maman en a 13 et la 12 tétines, comme on disait tout à l'heure.
Mais oui.
Alors, le pauvre, il manque de lait. Il n'est pas nourri. Firmin doit se trouver autre chose. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver des livres. Pourquoi? Parce que la famille a élu domicile dans le sous-sol d'une vieille librairie d'occasion. Nous sommes à Boston. dans les années 60, un quartier qui va être complètement démoli, qui va faire place à du neuf. Alors, la librairie ne paye pas de mine, mais il y a plein de livres. Alors, notre ami Firmin commence à grignoter des livres. Et là, il va apprendre à lire. Autrement dit, il va bouffer ce qu'il peut lire. Il va bouffer ce qu'il peut lire. Il va se cultiver en même temps. Alors, une bouchée de Faulkner, une bouchée de Flaubert, ben, il va devenir un rongeur érudit. Et là, si vous l'avez écouté un petit peu, il y a plein de noms d'écrivains qui circulent dans ces 200 pages. Ben, c'est savoureux parce que ce rongeur, évidemment, va finir par découvrir que le commerce, évidemment, est tenu par quelqu'un. Il y a quelqu'un, hein? Mm-hmm. Il y a un libraire. Et le rongeur se trouve un petit trou juste dans le plafond, juste au-dessus du bureau du libraire. Mm-hmm. Alors, il y a un passage que j'aime beaucoup. On nous dit que chaque matin, Norman, c'est le libraire, et Firmin, le rat, lisent le Boston Globe. Alors, je trouve ça délicieux. On imagine le rongeur dans son trou au plafond et qui lit le journal en même temps que Norman. Sauf que Norman, bon, c'est un propriétaire, bien sûr, il ne fait pas beaucoup de sous avec sa librairie. À un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a un habitant, un rat, dans sa librairie. Il va essayer de l'empoisonner. Alors, notre ami Firmin va être malade, il va survivre, il va déménager chez un autre monsieur, un écrivain raté. Puis, cet écrivain-là meurt, il revient à la librairie, et là, plus ça avance, plus ça va mal, parce que la ville de Boston veut rénover tout le quartier. Donc, le Norman en question reçoit un avis d'expulsion, il finit par s'en aller, et notre ami Firmin reçoit lui aussi un avis d'expulsion. Et qui lui donne cet avis? Et là, on est dans la fantaisie pure, c'est Ginger Rogers. Vous vous rappelez peut-être Ginger Rogers, la partenaire de Fred Astaire dans les films. Oui. Elle a fait des prétextes pour danser à claquettes.
Oui, oui.
Là, on se dit, mais qu'est-ce que Ginger Rogers fait dans cette vieille chambre avec Firmin, un rat?
Un rat qui n'aime pas les humains. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est un rat sympathique. Hein, parce que tout le monde pense à Ratatouille, vous savez, au petit personnage de Rémi.
Oui,
oui. Mais il n'est pas... Il est maigre, il est pas beau. Et il déteste la race humaine.
Il faut dire que la race humaine déteste les rats.
Le lui rend bien,
alors
oui, c'est ça.
Il essuie quelques coups, la famille essuie quelques coups. Mais quand même, il va survivre. Mais ce qui est bien avec ce rat-là, c'est non seulement c'est un amateur de lecture, mais il y a une mélancolie dans ce personnage, si on peut l'appeler un personnage.
Ouais.
Et je dirais qu'il y a tout le roman distille une sorte de mélancolie très douce. Et si vous aimez la lecture, bien sûr, ça va vous donner un goût féroce de vous remettre à la lecture. Ouais. Si vous aimez la lecture pas trop, mais là, ça devrait vous réveiller, vous donner le goût de vous replonger dans les livres.
Et en plus, il est mélomane. Il est pianiste.
Oui, il est pianiste.
Il joue
sur
un piano
minuscule. Oui. Et c'est un amateur de cinéma. Il y a un cinéma délabré dans le quartier qui s'appelle Le Rialto. On connaît ça, Le Rialto. Alors, il va voir de vieux films. Et là, c'est là où il découvre Fred Astaire, Ginger Rogers, qui intervient à la fin du livre. Donc, il vit vraiment dans une sorte de monde à part, un monde désuet qui est appelé à disparaître. Et ça fait partie aussi du charme de ce petit livre.
Oui.
Beaucoup de nostalgie, beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour. Quand il énonce férocement la seule littérature que je hais de toute mon âme est la littérature consacrée aux rats.
Oui.
Souris comprise. Je méprise, alors attendez, parce que alors là, c'est carrément... je méprise ce bon vieux rati dans du vent dans les saules. Je pisse à l'arrêt de Mickey Mouse et de Stuart Little. Il dit...
du vocabulaire.
Ah oui, attendez, du vocabulaire. J'ai un autre extrait ici. J'ai toujours imaginé que si d'aventure j'écrivais un jour l'histoire de ma vie, la première phrase en serait saisissante, quelque chose de lyrique, à la Nabokov. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Ou alors quelque chose de radical, à la Tolstoï, au cas où le lyrisme me ferait défaut. Et là, ce serait les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à leur façon. Oh, en tout cas, ça, c'est vraiment délicieux, l'histoire de ce petit Firmin, ce grand lecteur à la grosse tête et au corps rachitique. Mais alors, finalement, est-ce que le quartier va finir par être rasé ou pas?
Oui, en fait, il n'est pas rasé sous nos yeux, si je peux dire, mais la ville a commencé à le rénover. J'imagine que le quartier a vraiment existé. Mais c'est pas grave, je veux dire, on est triste un peu pour Firmin, mais je veux dire, c'est cette mélancolie qu'il distille. On est bien là-dedans, on baigne là-dedans, on en redemande.
Mais comment ça finit? Il meurt?
Non, on ne va pas jusque-là.
Mais non, mais je ne sais pas.
Non, 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 non. C'est pas une happy end, mais c'est pas une femme malheureuse non plus.
Non, parce que, bon, moi, je suis désolée, mais dans mes lectures, dans tout, les enfants, ça ne me fait rien, les adultes, ça ne me fait rien, mais les animaux, je ne suis pas capable.
Non,
voilà,
il va se sauver avec un livre. Il va réussir à sauver un livre de la librairie, mais je ne vous dirai pas lequel.
Ah, ben non, OK. Genre, le livre que vous amèneriez si vous aviez sur une île déserte.
Ça
vous rappelle quelque chose, Gérald. Gérald Cousineau, mes amis, qui vous a certainement donner envie de lire ce livre-là, dont on va rappeler le titre.
Alors, ça s'appelle Firmin, autobiographie d'un grignoteur de lit par Sam Savage, l'Américain Sam Savage.
Ça s'écrit comme ça, s'éternue, c'est-à-dire S-A-V-A-G-E.
Voilà, tout à fait.
Gérald, vous restez avec nous. Hein?
Oui, bien sûr.
Merci.
L'invité spécial.
C'est ternu, c'est
pas ça.
Alors, mon invité spécial, aujourd'hui, je me tourne vers elle. Je vais même tourner un petit peu le micro, du coup, pour bien la voir. Marie-Cécile Labrèche. Bonjour, Marie-Cécile.
Bonjour.
Je suis vraiment très contente de vous avoir auprès de moi. C'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans.
Il ne faut quand même pas me vieillir à ce point-là.
Ben...
Ça
m'a
dit 16 ans. C'est en 99.
En 99. Ah, ben oui. Quand même. Ah, non, c'est... Ah, c'est bien, c'est
au
bien, c'est bien.
Au siècle,
ah, oui, c'est vrai, au siècle dernier, que j'avais reçu Marie-Cécile Labrèche à une autre émission sur d'autres ondes, et peu importe. Et là, j'avais très, très envie de la retrouver, parce que à un moment donné, j'ai pu constater qu'on avait effectivement enregistré de vous, ben, c'est quasiment tous vos livres. En fait, les seuls livres qui me manquent, ce sont vos livres pour ados, pour adolescents, la série.
Ben oui, ça m'étonnait, parce que j'étais pas au courant. En fait, je savais pour Borderline, je l'avais entendu par hasard un jour en faisant le ménage chez nous. Je me disais, il me semble que je connais l'histoire. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit. Mais ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir.
C'est vrai que quand on pense à vous, on pense à Borderline grâce au cinéma, grâce au film avec Isabelle Blais,
oui.
qui avait marqué. Le film avait marqué autant que le livre, je dois dire. Parce que, comme je le disais hors antenne tout à l'heure, on prend, et je vais le redire en ondes, même si ce n'est pas facile, mais on a pris tous ces livres-là de plein fouet, littéralement dans la gueule, parce que c'était des livres très durs, mm-hmm. qui étaient parce que votre existence a été marquée par des événements qui n'étaient pas faciles à vivre. Et vous avez eu le besoin de les sortir de vous. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous avez eu le besoin de les écrire? Vous avez eu besoin?
Oui, en effet. Même si ce n'était pas tout vrai là, dans
les
livres, là, c'est vraiment un jeu que je faisais. Puis ce qui est important, c'était vraiment la littérature, l'esthétisme qui pouvait se dégager de ce que j'écrivais, peu importe que ça soit vrai
ou pas.
C'est ça.
Exactement.
C'est ça, mais oui, en effet, il y avait quand même cet inspiré de bout de ma vie, là, oui.
Et puis tout d'un coup arrive l'amour de votre vie. Et puis, avec l'amour de votre vie, vous tricotez un petit garçon. Et puis, vous vous mettez à écrire à ce petit garçon.
Uh-huh.
Et c'est ce qui a donné lieu à ce livre.
À mon dernier,
La vie sur Mars.
La vie sur Mars, oui. En fait, c'est ça, au début, oui. J'étais enceinte, fait que j'avais commencé à écrire. Je voulais lui raconter ce qui se passait de l'autre bord du placenta.
C'est bien parce qu'elle nous fait le son aussi. Hein, elle nous fait le... Ce que vous entendiez, c'était les petites voix qui tapaient.
C'est le clavier.
Moi, je mime l'entrevue. Alors, donc c'est ça, oui, j'avais commencé à lui écrire ce qui se passait de l'autre bord du placenta, mais finalement, je me suis dit, mais j'ai du mal, ça peut aller ailleurs, là, c'est parce que c'est ma manière d'écrire. Souvent, je pars de bout vrai, mais là, je jump dessus, puis là, je m'en vais dans la fiction. Donc, c'est ça. Alors, je me suis dit, OK, là, on peut partir des colons. Allons dans la fiction, là. Bon, restons pas juste dans l'autobiographie, là. C'est ça.
Alors, donc, vous avez imaginé le personnage de cette femme, mais surtout aussi la progéniture, ce petit garçon, Neil, parce qu'on commence par faire connaissance avec Neil, et on commence surtout par faire connaissance avec, ça, on peut le dire, vu que c'est le début du livre, avec le cadavre de la maman, parce qu'on la retrouve quelque part dans un lieu paumé de France avec un... C'est comment? Raon
l'étape. Oui, c'est comme le boulevard Tachereau de l'Europe. Ça passe pas grand-chose.
Et donc, ça commence avec la mort de la
maman.
De la maman. Et ce type en la lisant. Et là, vous allez nous en raconter un petit peu plus.
Donc, c'est ça. Alors, lui apprend que sa mère est décédée. Neil, il a 25 ans à ce moment-là. C'est un étudiant en médecine, mais il a foiré ses études. Il est accro aux anxiolytiques. C'est un dopé. Là. C'est un dopé des pilules. Et puis, il sort avec une pharmacienne qui est beaucoup plus vieille que lui, qui veut un enfant. Là, qui, est... Donc,
qui a un prénom pas possible.
Oui, Rita Adèle. Oui.
C'est ça, Rita Adèle.
Donc, c'est ça. Alors, puis, il y a toujours son amie qui le suit partout, la belle Rosaline, là, qui est toujours avec lui. Donc, c'est ça. Alors, il apprend le décès de sa mère et puis, lui, il est au Québec à ce moment-là. Puis là, bon, OK, il doit retourner en Europe, s'occuper, bon, de ce qu'il faut quand
ben
quelqu'un
oui, décède.
Après
un décès,
ouais, c'est
bien
ça.
Sûr.
Donc, il retourne à la maison de son enfance où il a grandi, c'est ça. Et puis, il tombe par hasard sur le manuscrit, parce que sa mère, c'est une écrivaine. Et puis, il tombe sur le dernier manuscrit qu'elle est en train d'écrire. Mm-hmm. Là, au début, il lit quelque chose, ça ressemble à un peu à sa conception, tout ça. Il y avait des bribes qui lui étaient parvenues avec le temps. Et puis, là, il se dit, mais est-ce que c'est ma vie qui est en train de raconter ou pas? Puis, il sait que sa mère faisait de l'autofiction et c'était tout le temps mélangé ces choses. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Puis, lui, il veut pas le lire, mais il poussait quand même à aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, il se demande aussi, dedans, c'est une petite phrase qui fait en sorte qu'il va vraiment aller à fond dans la lecture, c'est « Ton père n'est pas parti sur Mars », parce que son père, c'est un astronaute.
C'est ça.
Et puis sa mère, tout le monde lui a raconté que son père était parti sur Mars. Puis, bon, en tout cas.
Ça, on dira pas.
Oui, c'est ça. Alors, le livre est écrit, il y a des lettres de la mère. À chaque fois, il y a un bout du manuscrit où il se pose la question si c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis l'autre bout, c'est lui par rapport à sa vie du moment où là, bon, il est à Raon, un endroit qui est... là, il va hériter. Qu'est-ce qu'il fait avec la maison? Qu'est-ce qu'il fait dans ce coin-là? Il y a sa blonde qui l'harcèle avec son désir d'enfant.
Puis il y a tous les artefacts aussi dans cette maison-là.
Les antiquités,
voilà,
les
toutes
armoires,
les antiquités, les choses comme ça qui ont toute une histoire aussi.
Oui, en fait, c'est un livre beaucoup, beaucoup sur qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants.
Oui.
Qu'est-ce qu'on laisse... Oui. Avant, dans mes livres précédents, je me suis penchée sur qu'est-ce que ma famille m'avait laissé, la filiation. Mais là, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Oui. Puis il y a aussi l'espèce de clash qu'il y a entre la culture française et québécoise.
Oui. C'est
même si on a le même langage, hein, c'est quelque chose de très,
et ça,
très
c'est tellement réussi, parce que alors moi qui suis une Française mais qui vis ici depuis tellement longtemps, j'ai tellement ri. C'est d'une acuité le regard qu'elle porte sur la civilisation française.
Les traditions,
traditions.
Hein.
Par exemple, la bouffe. Oh, à un moment donné,
on n'en peut
plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, tu m'as demandé tout à l'heure, même toi, mon beau petit Puccinet. Alors, parce qu'à chaque fois qu'elle s'adresse à son fils, elle l'affuble comme ça de tous les petits surnoms que vous voulez. Et alors, elle lui dit, tu m'as demandé tout à l'heure, pourquoi on mange toujours? Et là, des oies qu'on gave. Les muscles de mes jambes et de mes bras sont en train de s'atrophier. Je ne suis que bouche, estomac et œsophage. Et foie aussi, car l'alcool qu'on nous sert. Des Saint-Émilion 75, des Saint-Joseph 85, des châteaux m'as-tu vu, de l'Armagnac je vois double, et j'en passe. Que même Bukowski aurait eu de la misère à suivre. Ah non, mais vraiment. Ah, c'est tellement bien vu. Là, c'est vraiment gigot flageolet, là, le dimanche. Et puis...
Oui, ça n'arrête pas. On fait que
c'est
manger.
Vrai,
oui, oui.
Alors, ces petits surnoms-là, parce que c'est marrant, quand j'ai lu ces petits surnoms-là, j'ai pensé, voyons, à celui qui écrivait San Antonio et qui arrivait à affubler les noms de tous les noms, tu sais, et il trouvait toujours des noms d'oiseaux incroyables à tous ces...
Ah, je ne sais pas, j'ai lu que San Antonio.
Ah non, et je me suis dit, mais attends, parce que où est-ce qu'elle va les trouver? Il y en a.
C'est ça, mon gars. Des fois, je vais chercher à la garderie, je l'appelle Face de Clown ou Bébé Pou ou Monsieur Poupou.
C'est vrai?
Oui, tout le temps, tous les jours.
Parce qu'il y en a,
Oui, je fais ça naturellement, j'aime ça.
ça change une femme à ce point-là d'avoir un bébé, parce que dans votre cas, oui. Hein.
Ah oui, énormément. Ah oui, totalement. Même ma façon d'écrire a changé. Ben, pas la façon de construire les phrases, tout ça, mais mon intérêt, certaines choses.
Oui.
Tout s'est déplacé. Hein. Il y a bien des choses sur lesquelles je ne peux plus écrire. Certains films, je ne peux pas regarder parce que dès qu'il y a une histoire d'enfant dedans, comme pour les animaux tout à l'heure.
Ah oui.
Moi, je ne peux plus. Là. Non.
C'est vraiment... Et vous avez le même attachement, je pense, à votre petit rouquin d'aujourd'hui que la maman, parce que finalement ils sont toujours collés ensemble. Et puis vous dites aussi, puis alors ça je m'en suis rendu compte, c'est vraiment un livre drôle,
très drôle.
Vous avez un talent d'humoriste, en tout cas en écriture, mais drôle. Exemple. Tout goûte pareil. Bon, notre sèche-linge, je le ris encore, notre sèche-linge mène un bruit d'hélicoptère. La laveuse bardasse tellement qu'à chaque fin de brassée, elle regarde la télé avec nous. Vous comprenez pourquoi je riais toute seule pourquoi je riais toute seule dans mon lit hier soir, c'est en lisant tout ça. Quand il y en a trop, son nez se bloque, il semble rempli de colle et ça me rend folle, je me pète la tête sur les murs, je fais des offres sur les marteaux piqueurs de eBay. Attends, de quoi vous parliez là, c'était... Ah oui, c'est parce qu'elle est allergique aux bibites.
Oui, aux bibites microscopiques,
c'est ça, aux acariens. Oui. Alors, je vous relis le truc. Elle dit, quand il y en a trop, mon nez se bloque, semble rempli de colle et ça me rend folle, je me pète la tête sur les murs, je fais des offres sur les marteaux piqueurs sur eBay. Et ça, il y en a, mais à toutes les pages, c'est vraiment... C'est
Mon éditrice, quand elle l'a lu, elle m'appelait aux 15 minutes. Elle était là, je ne suis pas capable d'arrêter, je suis morte de rire.
J'espère qu'ils ne vous ont pas fait recommencer.
Pas du tout, elle était morte de rire.
Okay. Et du coup, ça m'amène aussi à autre chose, c'est qu'à un moment donné, je ne veux peut-être pas parler trop de vos projets, mais, parce que je me disais, mais ça pourrait facilement être scénarisé. Et puis surtout, au niveau des dialogues, je vous entendrais facilement mettre des mots dans les bouches de comédiens. Moi, qui suis un peu comédienne aussi, il me semble que dire ces mots-là, c'est complètement jouissif. Mais ça vous arrive en ce moment? Vous ne travaillez pas un peu pour le cinéma?
Oui, mais pas sur celui-là. Là, mais je travaille... Oui, je continue. Oui, j'ai écrit un film. Là, on est stand-by. On ne sait pas si ça va être fait ou pas, parce que c'est toujours dans le cinéma.
Oui.
Sinon, je suis en train d'adapter un autre livre. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais en tout cas, oui, je suis en train d'adapter un livre québécois, là, présentement.
Okay.
Puis sinon, j'ai signé avec des producteurs pour ma série pour ados. Et puis pour... aussi, quoi d'autre l'affaire? Oui, pour une série pour enfants 4 ans.
Ah, oui,
comme
vrai.
Je disais tout
c'est
à l'heure, vrai. Mon ouais. range est très large.
Et très large.
Ouais, après ouais. ça, je vais m'occuper du troisième âge.
Bon, on va revenir.
Merci. On vous attend.
Marie-Cécile Labrèche, on va revenir à la vie sur Mars parce que tout à l'heure, je l'ai précisé, ça se passe en 2035 et on dit que le père est astronaute, il est parti sur Mars. Je voudrais tout de suite rassurer les gens qui n'aiment pas la science-fiction, tout ça. On n'est pas du tout, mais du tout dans un livre. On n'est pas dans Dune, là.
Non, pas du tout.
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, mais il y a un moment donné où vous avez hésité, non? Vous vous êtes dit, oh, est-ce que j'en mets un petit peu plus sur les... Puis finalement, vous vous êtes dit, non,
restons simples, parce qu'en plus, j'ai jamais lu de science-fiction. C'est drôle parce que j'ai eu, en principe, c'est juste des bonnes critiques que j'ai eues, mais une seule mauvaise. Et c'est un monsieur, je pense, c'est un spécialiste de science-fiction, puis il disait que j'avais pas compris.
Non,
c'est tellement drôle, ça m'a fait rire. J'ai pas pris personnel, j'étais comme ben là.
Ouais. C'est ça.
Parce que là, c'est le prétexte, c'est juste un... Ça se passe en 2035, mais moi, je travaille l'émotion. L'émotion, que ce soit en 1960 ou en 2050, l'émotion reste. C'est toujours les mêmes. On en a 12 à peu près sur lesquels on est toujours en train de travailler, même s'il y a beaucoup d'émotions. Il y en a 12 principalement sur lesquels on brode tout le temps.
Et je dois dire que le dernier tiers du livre, je ne dirai pas pourquoi, mais autant on rit beaucoup, autant tout d'un coup l'émotion prend le dessus, mais ça ne devient pas larmoyant. Là. On n'est pas dans un livre Kleenex, mais...
Non, moi, je ne donne pas dans le livre Kleenex.
Non, mais...
Ah non, j'ai toujours eu peur de ça, du sentimentalisme.
Ah oui? Ah,
peut-être c'est pour ça mon côté trash avant. Les livres étaient si...
Oui, percutant.
L'espèce de fleur bleue, c'est drôle parce que mon mari est tellement fleur bleue, là.
Mais, c'est vrai.
Mais moi, je suis un bulldozer, là, émotionnellement, là. Fait que c'est. Oui.
Ouais. Non, mais.
Je sais pas si j'ai dit quelque chose, j'ai juste fait des bruits, j'ai l'impression.
Non, c'est bon. Pas du tout.
J'aime bien les onomatopes à la radio, non, c'est
non,
pas
non.
pire.
Non, pas du tout. C'est ça, je voudrais lire un petit extrait ici. Ça, c'est lorsque. Bah, en tout cas, peu importe, je vous le lis, on se lance là-dessus. Alors là, vous parlez toujours, hein, on est dans ces lettres, dans cette espèce de journal que la maman écrit à ce futur petit Neil. « Ça n'a pas coulé de source que j'annonce à ton papa ta présence dans mon utérus. C'était en juillet, il ne faisait pas encore une chaleur horrible comme en Arabie Saoudite, ce vers quoi le Québec tend de plus en plus avec le réchauffement de la planète. » Je voulais mettre ton père au courant avant qu'il retourne à Boston où il travaille pour Boston Development. Ben oui, ma petite chose désirée. Ton père et moi habitons dans deux pays différents. Lui à Boston, moi à Montréal. On a failli te concevoir par fax. Le bus de ton père était dans Palon. Il faisait une crise de français. Il s'était enroulé dans son drapeau bleu-blanc-rouge. Il avait laissé sa voix grimper d'au moins 3 octaves. Il paraissait aigu des ultrasons. Il n'y avait que les chiens qui pouvaient l'entendre. Je rigole, mais ce n'était pas drôle. Ton père était furieux après moi parce que j'avais perdu une petite clé lors du dernier déménagement. Une petite clé antique qui servait à ouvrir l'armoire Louis-Philippe qui a appartenu à je ne sais plus lequel de tes ancêtres. Putain de bordel de merde, Fedora, comment ça, tu ne l'as pas vu? Et elle qui répond, ben non, putain de bordel de merde, Christian, je ne l'ai pas vu. Oh, j'adore ça, ça me réjouit. Vous ne savez pas comment ce livre me réjouit. Je vous rappelle que c'est de Marie-Cécile Labrèche, La vie sur Mars. Messieurs, Gérald Cousineau et Jacques Tremblay, est-ce que vous avez lu ce livre ou d'autres livres de Marie-Cécile?
J'ai écouté Labrèche il y a quelques années, un autre, mais je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai oublié le titre.
Alors, bon, mais... Borderline, on a
non,
quoi d'autre?
On a
La Brèche.
La Lune
oui.
dans un HLM.
Peut-être, La Lune dans un HLM, peut-être.
Mais mettez non, ça mais, sur le
mais
cours de ma mémoire.
Mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce que je voudrais pas vous poser une question piège. On peut pas avoir tout lu. Ce que j'espère, c'est vous avoir donné, que
oui,
Marie-Cécile
oui, oui.
vous a donné l'envie. Mais faut pas se sentir mal, hein. On peut
non,
pas,
j'adore la science-fiction, ça tombe bien.
Le type qui a rien compris.
Est-ce que je peux mettre une option sur la copie?
Oui, je vais vous coucher sur mon testament, Jacques. Je vais vous coucher sur mon testament. Alors, Marie-Cécile Labrèche, je voudrais vous remercier infiniment d'être venue. Et je voudrais redonner ces titres, ces autres titres que nous avons de vous disponibles via le SQLA, gratuitement, bien sûr. Attendez-vous à quelque chose, c'est ça, d'un petit peu plus percutant, mais c'est toujours du Marie-Cécile. Vous avez vu comment cette femme est complètement naturelle, complètement... Eh bien, c'est... Lisez du Labrèche, vraiment. Alors, autre titre disponible à part La vie sur Mars, qui vient juste d'arriver. Amour et autres violences, ce sont des nouvelles de votre jeunesse. Mais on va, hein? Bon, c'est ça. La Lune dans un
c'est
HLM.
C'est pas mon préféré.
Non, mais bon.
Amour et autres violences, c'est drôle, hein, c'est l'auteur qui le dit, c'est pas mon préféré.
Non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, un livre, dès l'instant qu'il est écrit, ça ne vous appartient plus.
Non, hein,
c'est toujours ce qu'on dit. Et puis, il y a bien sûr Borderline, et puis Labrèche
oui.
aussi. Alors, voilà, tous ces livres-là sont disponibles. Merci beaucoup Marie-Cécile d'être est-ce que vous restez avec nous?
Oui.
Alors voyez-vous, on a des bons invités, on n'a pas de vin, mais par contre on a le... Oui Jacques?
Non, mais je dirais que même si ce n'est pas son préféré, c'est des nouvelles qu'elle a écrites avant toute chose, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Donc pour quiconque s'intéresse à Marie-Cécile, c'est très important de jeter un regard sur ce
sujet. Oui, c'est la genèse, en effet. C'est bien, comment vous l'avez dit. Merci beaucoup.
Merci, Jacques. C'était important et intelligent de le dire. Merci.
Oui.
Écoutez À Livre Découvert avec Clotilde de Seille et ses invités. Le bénévole du jour.
Bonjour Jacques Tremblay.
Bonjour Clotilde.
Mon Dieu, c'est quoi? Tout d'un coup, du coup, il me fait une voix de papy. Papy fait de la résistance.
Bonjour Clotilde.
Bonjour Jacques. Alors Jacques, aujourd'hui, vous arrivez avec un livre au titre très court, mais à l'histoire très longue. On s'intéresse à l'affaire Dreyfus. Et le titre du livre, je vous laisse présenter ça.
Le titre, c'est Des points. L'auteur, c'est Robert Harris,
oui.
qui est un Britannique de Nottingham.
Oui.
Bref,
oui.
je ne sais pas s'il connaît le shérif, mais en tout cas, c'est un spécialiste des polars, ou enfin, c'est un auteur qui a produit quantité de romans
qu'on pourrait qualifier d'historique parce que reposant sur des événements historiques.
Et juste avant que vous commenciez, saviez-vous qu'il y a une chanson qui a été écrite sur l'affaire Dreyfus? Vous savez?
Oui, est-ce que c'est chanté par une dame à la façon d'Arletty ou
Non. Là, moi, je parle de quelque chose de plus récent que cela, même si ça ne date pas d'hier. Non, c'était Yves Duteil qui a écrit une chanson qui est très belle parce que Yves Duteil avait dans sa famille une parenté. Je ne sais plus exactement laquelle, avec le fameux Dreyfus. Et je vous propose qu'on entende cette chanson-là. Et ensuite, on revient sur ce livre-là. Ça vous va, Jacques ?
Quelle belle mise en situation.
Merci.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour, je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi, et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, que j'ai toujours porté l'amour de mon pays bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays.
Yves Dutheil, la table est mise, hein, Jacques Tremblay.
Vous me voyez souffler.
Ah oui,
c'est vraiment une très, très belle chanson.
Oui. Il a mis 10 ans pour l'écrire et pour la composer. Il a travaillé... Alors parlons-en de ce livre des points.
Eh bien, ceci étant dit, c'est la trame de fond de l'histoire que raconte Robert Harris. Robert Harris qui choisit de traiter l'affaire Dreyfus en ne parlant que d'un personnage principal qui s'appelle Georges Picquart. P-I-C-Q-U-A-R-T. Georges Picquart est un colonel de l'armée, c'est un jeune homme brillant, intelligent, qui croit en l'armée. Et au moment où Dreyfus est arrêté, interpellé, dégradé et déporté, fin 1994, plus précisément décembre et janvier 1994-1995, c'est un jeune colonel voué à de grandes promotions à qui on demande de rendre compte des audiences qui ont lieu et en vertu desquelles on va condamner Dreyfus. Picquart a aucune raison de douter de la bonne foi de l'armée à ce moment-là et rend compte de la façon dont on traite Dreyfus et ne s'en offusque pas davantage parce qu'il a la conviction que l'armée est sincère quand elle dit détenir des preuves de la culpabilité de la trahison de Dreyfus. Alors, on le trouve très bien, ce jeune homme de 40 ans, polyglotte, cultivé, aimant la littérature et la musique, parlant russe, traduisant Dostoïevski, etc. Et on lui donne une promotion. Désormais, mon cher Picquart, vous serez à la tête des services secrets. Et donc, il accepte. Et donc, à la tête des services secrets, dans les 18 mois qui suivent la condamnation de Dreyfus, déporté sur l'île du diable, des informations lui viennent à l'effet que des informations stratégiques continuent à être transmises aux Allemands. Ce pourquoi on a condamné Dreyfus. Même si Dreyfus est emprisonné. Et il semble que ce sont les mêmes voies qui amènent cette information-là aux Allemands. Et ils creusent un peu et ils découvrent que finalement, ça n'est pas Dreyfus, mais bien un certain Askenazi qui est l'auteur d'un bordereau qui fut l'élément déterminant de la condamnation de Dreyfus. On a condamné Dreyfus parce que le bordereau, c'est-à-dire une espèce de note secrète qui aurait été transmise aux Allemands, leur donnant des informations stratégiques sur certaines positions françaises, militaires, on a associé l'écriture de ce bordereau à l'écriture de Dreyfus. Or, c'était loin d'être prouvé. Et ce que Picquart découvre, c'est que c'est exactement l'écriture d'un autre mec, un capitaine un peu sombre, un peu miteux, et que c'est lui le véritable coupable. Il pousse son enquête, il fait suivre, il retrace des éléments de sa vie. C'est une espèce de dévoyé qui a des dettes et qui a donc un mobile pour trahir. C'est même quelqu'un qui déteste la France, écrit-il dans certains papiers qu'on retrace. Et donc, une fois qu'il y a toute cette preuve-là, il se présente à ses supérieurs en leur disant « Écoutez, je connais le coupable. » Alors, ses supérieurs, ce sont les chefs de l'armée qui sont tellement contents d'avoir trouvé un coupable en 1994, qui est maintenant déporté, envoyé loin, qu'on espère mourra, verra mourir et disparaître. Et donc, on ne veut pas reconnaître l'erreur. Alors, je vous lis un extrait d'une discussion entre ce Picquart, qui a réussi à remonter la filière, à trouver le vrai coupable, et son patron, qui est ministre de la guerre, qui s'appelle Guillot.
Prenez tout votre temps, Jacques.
Alors, il lui raconte qu'il a les preuves, etc., etc., et Picquart, s'adressant à son patron, « Ce dossier secret qui a permis de condamner Dreyfus, vous savez qu'il ne prouve strictement rien contre Dreyfus, qu'il contient peut-être même des mensonges éhontés. » Alors, Billot, c'est le nom du général qui reçoit cette information, se plaque les mains sur les oreilles. « Il y a des choses que je ne devrais pas entendre, colonel. » Et il poursuit: le général de Boisdeffre, qui est un de ses collègues, s'apprête à accueillir le tsar à Paris et à réussir un coup diplomatique qui va changer le monde. J'ai un budget estimé à 600 millions de francs à négocier avec le comité des finances. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de nous laisser distraire de ces grandes questions par le petit problème sordide d'un juif sur son rocher. Parce que, évidemment, Dreyfus étant juif, c'était d'autant plus facile de tourner la vindicte populaire contre lui et de légitimer sa condamnation. Donc, cela déstabiliserait l'armée, poursuit-il. Je serais chassé de ce poste et avec raison. Vous ne devez pas laisser toute cette affaire prendre des proportions démesurées. Vous comprenez ce que je dis, colonel? Et un peu plus loin, il me tend la main, dit Picard, qui est le narrateur de ce roman. Son étreinte est ferme, sèche, calleuse. Il pose son autre main sur la mienne et l'enferme. Et il dit, le pouvoir n'est jamais facile, Georges. Il faut avoir le cran de prendre des décisions difficiles. Mais ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ça. Aujourd'hui, la presse ne parle que de Dreyfus. Mais demain, sans nouvelle révélation, elle aura tout oublié. Vous verrez. Fin de la citation. Et là, nous sommes au milieu du roman de 600 pages.
Ah oui, oui. Hein.
Alors,
ce qui suit,
c'est 300 pages où Picard deviendra la cible des autorités de l'armée. On le détachera. On lui confie d'autres missions, non pas quelque part en France, mais en Tunisie.
De véritables tueries. D'ailleurs, on l'amène au front de...
On lui confie une mission suicide.
Oui, c'est ça. On est sûr qu'il va se faire tuer.
Et il réussit à s'en sortir. Ouais. Il revient, mais il est persuadé, effectivement, qu'on veut le baïonner. Et c'est à ce moment-là qu'il mettra en place, donc après 4 ans d'incarcération de Dreyfus, lui étant marginalisé, on est en 1999...
En 1899,
comme tantôt, c'était le siècle du siècle dernier.
C'est ça, exactement. Oui.
Et c'est à ce moment-là que là, il va sentir que son devoir est de faire sortir l'information, qu'il fera passer par son avocat, Louis Blois, qui s'associera à la famille Dreyfus, Lucie, sa femme, etc., son frère. Et c'est à ce moment-là qu'il interpellera ou qu'il sensibilisera l'intelligentsia française à la situation injuste de Dreyfus. Alors, on associe l'affaire Dreyfus à la célèbre, au célèbre texte de Zola, J'accuse.
Oui. Est-ce qu'il en est question?
Oui. Mais le personnage principal ici, c'est
vraiment Picard.
Et c'est son enquête. Et ça m'a fait penser au trailer d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous pensez à Harry Bosch ou si vous pensez à quoi, Kurt Wallander?
Wallander.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun de chercher à combattre les vrais bandits, à les dénicher et à les retracer. Mais ils doivent aussi se battre contre leur patron, qui à un moment donné cherche à les boycotter.
À les baïonner.
Ah, c'est exactement ce qui se passe avec Picard. Il doit trouver le coupable, faire les preuves, et ensuite combattre sa propre autorité, sa propre hiérarchie, pour faire, dans le fond...
Avancer la cause, simplement.
Et rayonner la vérité.
Oui, et la mémoire.
Et dans ce sens-là, il va se retrouver, six ans après la condamnation première de Dreyfus, il va se retrouver lui-même en acte d'accusation, il va lui-même être condamné à des années de prison. Dreyfus, grâce à lui d'une certaine façon, parce que ça a ébranlé beaucoup le système judiciaire, la Cour de cassation ramènera Dreyfus en 1899. Tout ça est raconté comme étant la progression de l'enquête, mais il faudra encore attendre de 1899 à 1906 pour que Dreyfus soit enfin complètement dédouané et réhabilité. Alors, tout ça se vit... mettons, le roman, c'est de 1894 à 1899. La fin de l'histoire est un petit peu banale. Elle n'est pas banale pour Dreyfus.
Mais
Dreyfus peut enfin se
C'est pas la finalité,
promener.
C'est ça.
Il
n'a
pas encore
le
été réhabilité, mais c'est toute l'enquête.
Les va-et-vient, les
bâtons dans les roues qu'on aura mis dans les activités de ce cher Picard, qui est un personnage vraiment très intéressant. Et le trailer est vraiment là. On lit ça comme un roman policier. C'est un page-turning.
Oui.
C'est le plaisir que j'ai eu à lire. J'espère que ce sera plaisant pour l'écouter.
Jacques Tremblay, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre « Des » avec un point derrière, « Des » majuscules avec un point derrière, de Robert Harris, H-A-R-R-I-S. Et c'était Jacques Tremblay qui l'a lu pour vous, chez Vues et Voix, et qui nous en parlait si éloquemment. Merci Jacques pour la saison. On se revoit la saison prochaine.
Ah, plein de choses.
Merci.
Des nouvelles et des livres.
ça, ce sont des petites nouvelles que je vais glaner à droite et à gauche. Et tout d'un coup, je me dis, ah tiens, voilà un écrivain dont on n'a pas parlé depuis longtemps ou même dont on n'a jamais parlé à l'émission. Et là, j'ai appris qu'il y a 2 semaines, alors que vous savez qu'il y a à nous quelques semaines, le milieu de la presse écrite était secoué par l'affaire Bougingo, qui de son propre aveu nous a relaté des situations explosives ou émotionnelles dans lesquelles il se mettait en scène finalement. Bref, ce n'est pas pour revenir là-dessus que je vous en parle, mais pour vous annoncer le prochain Umberto Eco, où il sera question de presse à scandale, de complotisme et de flagornerie. Ça s'appelle Numéro Zéro, ça vient juste de sortir. Alors non, il n'est pas encore lu, mais à mon avis, à l'automne, il sera déjà prêt. C'est donc le dernier roman à succès du Piémontais, cette satire burlesque de la presse, ou tout du moins, espérons-le, d'une certaine presse, trash à souhait, mêlant les scoops, les ragots, les insinuations, les délations, en tout cas, tout ce qui est laid, tout ce qui est pas beau dans le milieu de la presse écrite. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a de Monsieur Eco disponible chez nous au SQLA? Alors j'ai trouvé « À reculons comme une écrevisse », qui avait été enregistré en 2006. J'ai trouvé Baudolino, j'imagine qu'on le prononce comme ça, ou Baudolino. Hein, je ne suis pas très spécialiste de l'écriture, enfin plutôt de l'italien. Le cimetière de Prague, de Umberto Eco aussi. Comment voyager avec un saumon?
Oui.
La Gérale dit oui. C'est quelqu'un que vous affectionnez, que vous aimez lire?
Non, mais j'aime bien ce livre en particulier.
Ah, en particulier.
Comment voyager avec un saumon, oui.
C'est marrant, ça, c'est tout à fait, oui, le genre de bouquin que je vous aurais vu me proposer, ça.
Oui.
C'est un rendez-vous à l'automne?
Bon.
Bon, d'accord, allez.
Il y a des témoins.
Ah oui, ça y est, maintenant, c'est enregistré, c'est fait. La mystérieuse flamme de la reine Loana, vous avez lu aussi, non? Je n'ai pas lu ça.
Pas certain.
Et puis, celui qu'on a lu pour la plupart d'entre nous, c'est Le nom de la rose, évidemment, et puis Le pendule de Foucault. Donc voilà pour Umberto Eco. Si à un moment donné, vous prend l'envie de relire du Eco, eh bien, nous avons tous ces livres-là disponibles. Je voudrais maintenant vous faire écouter une musique que j'affectionne particulièrement et qui va nous amener sur le prochain sujet. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise. En dansant la javanaise. Oh là là, qu'est-ce qu'on aurait voulu chanter ça? Nous aimions le temps d'une chanson. Alors pourquoi la javanaise? Eh bien, figurez-vous qu'il est annoncé pour le mois de septembre prochain au Festival international de littérature de Montréal une lecture des textes de chansons de Serge Gainsbourg lus par nul autre que Jane Birkin.
Oui.
Michel Piccoli sur scène également, et Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française. Et je me suis dit, mais quel événement merveilleux. J'avais reçu Michel Corbeil, qui est la directrice du FIL, à cette émission déjà. Et là, bon, je me dis, je pourrais peut-être essayer d'avoir Piccoli et Jane Birkin. Ça serait surprenant, mais allez savoir. En tout cas, je vais l'essayer, ça c'est certain. On en écoute. Non, ça y est, c'est tout. Merci beaucoup, mon ami. Alors, ce sera le jeudi 24 septembre à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Rafale.
Ça veut dire que c'est la fin de l'émission qui se profile. Quelques titres, oui, en rafale que j'ai à vous proposer qui viennent juste de se rendre disponibles en version audio adaptée via le SQLA. Amélie Nothomb, Pétronille, c'est son dernier. Elle en fait un par an, de toute façon. J'ai un avis de lecteur ici, madame ou mademoiselle Nothomb, qui aime le champagne. Ça, tout le monde le sait. Rien de tel qu'une coupe de ce breuvage aux bulles pétillantes, dit cette lectrice, pour l'apaiser. Et l'ivresse qu'elle ressent dès la première gorgée avalée ne ressemble à aucune autre. Mais Elle aime par-dessus tout partager ce moment de grâce et de délices en bonne compagnie aussi. Lorsqu'elle se retrouvera seule, elle se met en quête d'une compagne de beuverie. Alors qu'elle dédicaçait son roman « Sabotage amoureux » dans une librairie parisienne, sans même regarder la personne qui lui tendait son ouvrage, elle demande à qui adresser le petit mot. Petroni Fanto lui répondit une voix peu sexuée. Comment on fait ça, une voix peu sexuée? je ne savais pas du tout. Enfin bref, c'est la rencontre entre Petroni, cette fameuse Petroni, qui écrit aussi des livres, et Amélie Nothomb. C'est un livre, encore une fois, là, chaque fois que Madame Amélie Nothomb écrit un livre, il y en a qui se parment littéralement, puis il y en a d'autres qui disent « je ne comprendrai jamais ce qu'on y trouve ». Alors écoutez, procurez-vous-le de toute façon ou d'une autre. Dans le Figaro, le 5 septembre 2014, on disait « Nothomb dit de Petroni qu'elle a une manière subtile et drôle de prêcher le désespoir. Elle montre là sa générosité tout en écrivant un texte savoureux. » Oui, l'Amélie Nothomb 2014 est un excellent cru. Le soir, on écrivait le 23e roman d'Amélie, un portrait d'écrivaine entre ivresse et danger. Et puis donc, voyez-vous, en principe, d'excellentes critiques pour ce Petroni de Madame Amélie Nothomb. Un autre livre que j'ai à vous suggérer, il est d'Eliette Abécassis, celui-ci s'intitule « Un secret du docteur Freud ». Nous sommes à Vienne en mars 38. Sigmund Freud a convoqué la société psychanalytique pour une session extraordinaire. Élèves et disciples sont réunis autour du maître qui s'exprime devant eux peut-être pour la dernière fois. Il n'a plus d'autre choix puisqu'il faut fuir l'Autriche. Mais lui, pourquoi est-il resté malgré l'invasion des nazis? Quel secret renferme la lettre retrouvée par son fils? Comment Marie Bonaparte parviendra-t-elle à le convaincre de partir? Et puis qui est le mystérieux Anton Sauerwald? Aux heures les plus sombres de l'histoire, c'est un roman passionnant qui offre une nouvelle vision du père de la psychanalyse. Il est signé Eliette Abécassis, Un secret du docteur Freud. J'ai un avis de lectrice ici qui écrit « Je viens d'achever avec moult émotion et enthousiasme ce roman fort bien documenté qui met en scène les deux dernières années de l'existence du père de la psychanalyse. » Freud fume en fermant les yeux. Après sa rupture avec Fliss, il avait traversé une phase de grande noirceur. Il ne croyait plus en l'amitié. Autant dire, il ne croyait plus dans le genre humain. Cette rupture l'avait atteint au plus profond de lui-même. Elle avait touché les fondements de son être. Ce don de soi sans rien attendre en retour, cette possibilité qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui vous comprenne parfaitement et qu'il soit là pour vous en toutes circonstances. « J'ai perdu un être cher à mon cœur, dit-il, et c'est le monde qui s'en est retrouvé désolé, tant il est vrai que l'amitié suffit à vous changer la vie, à vous la rendre plus belle, plus grande, plus passionnante. Avec lui, tout était plus intense. » J'ai ici un extrait de ce livre dont je vous rappelle le titre, « Un secret du docteur Freud » d'Eliette Abécassis, A-B-E-C-A-S-S-I-S, comme le cassis. Un extrait donc. Ici, à Paris, il a conçu ses premières lettres dans cette ville qui a vu naître les plus grands romans épistolaires. Il y a tant appris, travaillé, réfléchi et rêvé. Il était souvent seul, le soir, et l'écriture était sa compagne. Quand il n'y avait plus rien, quand il se sentait déprimé et atteint par la vie, quand il broyait du noir sans voir d'échappatoire, quand il perdait l'espoir, l'écriture était là. Quand il se sentait loin des siens et qu'il aurait voulu trouver du réconfort dans les yeux de sa mère et les rires de ses sœurs, il pouvait les étreindre et les toucher du bout des doigts. Et quand il avait froid, loin du feu, quand il avait faim après un repas frugal, il prenait sa plume. Cela au moins ne lui coûtait rien, juste de l'encre, du papier et un timbre. Et peu à peu, à travers l'écriture, sa vision du monde s'était forgée, ses idées étaient nées, son esprit avait mûri, il avait compris qui il était. » « Me Monsieur Frédéric Becbeder a signé Una et Salinger. C'est un livre qui, dit-on, même réconcilie avec l'auteur, parce que Dieu sait s'il y a un auteur qui plaît ou qui agace aussi, c'est souvent Frédéric Becbeder. Là, on a une lectrice qui nous dit qu'elle l'a acheté sur un coup de tête, simplement parce que le nom de Truman Capote y apparaissait. Et je dois dire qu'elle dit que je n'ai vraiment pas été déçue, loin de là. Alors, on découvre la vie, du moins en partie, de celle qui allait devenir la femme de Charlie Chaplin, donc Una, mais aussi son aventure amoureuse avec celui que plus tard nous connaîtrons sous le nom de G.D. Salinger, Jérôme de son prénom. Ce roman se déroule juste avant la Seconde Guerre mondiale, que le lecteur vit en direct grâce aux lettres fictives que Jérôme envoie à Una. C'est donc signé Frédéric Becbeder, et je pense que c'est vraiment tout le temps qui me reste, hein, mon ami. À peu près 30 secondes, on va regarder par nous le générique, juste le temps que j'ai de remercier mes camarades, mes invités, mes amis qui sont venus jusqu'ici. Marie-Cécile Abrèche, merci d'être venue. Jacques Tremblay aussi, merci d'être venu. Ça m'a touché beaucoup. Merci à vous aussi, bon été. Gérald Cousineau, c'était bonheur de vous voir, de vous toucher, là, de l'avoir à côté de moi plutôt que par téléphone. Oui. Merci et merci à mon camarade. Été. Merci beaucoup à vous aussi. Et bonne lecture à tout le monde et merci à Mathieu Tessier qui m'accompagnait à la technique.